Edmond le Pelletier, le pressoir. Une fière noce que le repas d'épousailles de la fille du père Pierret, le fermier de Monsieur Dupont, le gros fabricant de frocs de Lisieux. Mathilde Pierret, la mariée, était une gaillarde, fine comme une mouche, solide comme un cheval. De Vimoutiers à Orbec, on la citait en exemple. Plus d'un gars l'avait convoitée quand, par les soirs dorés d'automne, elle s'en revenait du lavoir, son paquet de linge sur la tête et la main sur la hanche, dans une attitude sculpturale et biblique. Plusieurs fois, demandée en mariage, car le père Pierret passait pour avoir du foin ailleurs que dans ses greniers, Bathilde avait fait la sourde oreille aux propositions matrimoniales de fils d'éleveurs, des herbagers, des fromagers de la vallée, qui s'étaient présentés à la ferme, les yeux allumés et la bouche en cul de poule. Ces refus successifs commençaient à faire jaser dans la contrée. « Oh là, Bathilde fait la fière, disait-on. Qui sait si elle ne sera pas trop heureuse d'épouser un jour Jean Basset ?» Jean Basset était un pauvre garçon souffreteux et malingre qui avait été rudement secoué dans son enfance par les convulsions. Il avait la bouche contournée et les jambes torses, d'où son surnom emprunté à l'espèce canine. Basset était cordonnier de profession et violoneux par plaisir. C'était lui qui faisait danser aux fêtes et aux réjouissances nuptiales. Avec sa figure de travers, ses petits yeux gris très vifs et le dandinement grotesque qui résulta de ses jambes semblables à des corps sculptés, ornement des buffets bourgeois, style Henri II, Basset avait l'air mauvais et sans cesse semblait en quête de quelques mauvais tours à jouer au prochain. En entendant les commères, le marié ironiquement, lui, le pauvre savetier, contrefait et biscornu avec la belle Bathilde, la fille du plus riche peut-être des fermiers de la vallée d'Auge, Basset avait un tortillement des reins et un décrochement sardonique de la mâchoire qui le rendait plus hideux encore. Et les bonnes langues de s'agiter et les bonnes mèches de trémousser aux dépens de cette belle mijaurée de Bathilde, de son vilain amoureux, de savetier aux jambes torses. Car on savait que Basset on tenait pour la fille du père Pierret, et que peut-être venait de sa malice et son tiraillement mieux que faisait aboyer les chiens et pleurer les enfants. Cependant, un beau jour, grande rumeur dans toute la vallée de la Tourque, Bathilde se mariait, et celui qu'elle avait choisi n'était pas du pays. C'était un étranger venu avec les entrepreneurs de Paris pour des travaux de chemin de fer. Un vrai monsieur, ma foi. Il portait paletot et pince-nez. Le dimanche, il faisait sa canne et avait en semaine, pour conduire les ouvriers sur le chantier, une belle casquette à galons d'argent. Et Bathilde, méprisant les boulets bornet de coton du pays d'Auge, s'était amouraché de cette casquette. Le père Pierret avait bien résisté d'abord, mais comme Bathilde était majeure et qu'elle avait toute la fortune de sa mère mariée totalement, il avait bien failli lui donner pour mari le conducteur galonné. Le père Pierret, qu'on laissait à la tête de la ferme, avait fort bien fait les choses le jour de la noce. Ce qu'on but et ce qu'on mangea fut formidable. La table avait été dressée en plein air dans la cour, en deux rangs de pommiers, devant le corps de ferme qu'encadraient, isolés de peur du feu, à droite et à gauche, deux bâtiments servant l'un de fromagerie et l'autre de pressoir. Et quand le soleil eut disparu derrière les coteaux voisins, et que les robustes mangeurs éprouvèrent les besoins successifs de se lever de table, pour un instant bien entendu, Bathilde et son mari se regardèrent expressivement, et leurs mains se cherchant sous la nappe, échangèrent un désir également violent, également irrésistible. Ils voulaient être seuls, s'appartenir et oublier la table pentagruélique et les convives échauffés, dont plusieurs déjà, étourdis par le cidre dans les nombreux trous du milieu, se levaient péniblement et venaient les jambes trébuchantes, débiter aux mariés de grosses et irritantes plaisanteries. Mais comment être seul? S'en aller était impossible. Bon pour les mariages, les villes, les dispositions rapides ressemblent à des enlèvements. Toute la noce les eut suivis. Et quel déluge de quolibets, quelle avalanche de farces, quelle bordée de niches. La chambre nuptiale était pourtant là, préparée, fraîche, désirable. Mais il n'y fallait pas songer avant minuit. Si encore on pouvait se lever, s'en aller, ne fût-ce qu'un quart d'heure, le temps d'un mot à l'oreille et d'un baiser sur les lèvres, là-bas, tout seul, derrière la fromagerie, ou bien sous le hangar en bois, et les deux jeunes gens, se comprenant fiévreusement les doigts sous la table, cherchait, chacun de son côté, un moyen de s'esquiver, qu'il ne trouvait pas. Le Dieu qui veille, dit-on, sur les amours, vint à leur secours. Jean Basset, assis au bas bout de la table, son violon à côté de lui, avait les yeux ardemment fixés sur eux. Oh, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et gardait l'immobilité sombre d'un braconnier à l'affût. Et tout à coup, comme poussé par une idée joyeuse, il empoigna son violon et fit grincer la corde sous l'archet. Tout le monde tournant la tête du côté du savetier musicien. Il y eut une seconde brouhaha et de tumulte. On se levait, on se poussait, on criait « Vive Basset !» et on haussait les verres pleins à santé. Profitant du désordre, les mariés rapidement avaient quitté la table. Bathilde en fit experte, entraîna son mari vers le pressoir. La porte à deux battants était ouverte. Ils la poussèrent. Un bruit rauque comme un sanglot accompagna cette poussée brusque de lui protecteur. Mais les deux amoureux étaient trop préoccupés, trop troublés aussi pour faire attention à une porte qu'on ferme et qui grince. Il leur avait bien semblé qu'on avait marché derrière eux, mais avaient-ils leur tête assez libre pour raisonner? Ils ne voulaient et ne pensaient qu'à une seule chose, être seuls. Muet, ravi, surpris, Bathilde et son homme s'étreignirent puissamment et délicieusement. Puis cette réflexion leur vint. On allait s'apercevoir de leur absence. On se mettrait à leur poursuite. On les découvrirait. Et on se moquerait ensuite d'eux. Alors où se cacher? La cuve énorme avec son corset de l'acier et de fer luisant, montait du sol, poussée d'aplomb sur quatre madriers. Une échelle y donnait accès. La vis puissante était relevée, et le plateau formant gland, plafond au-dessus de la cuve, était remonté au cran le plus élevé. Le câble, destiné à mettre en mouvement l'appareil, pendaient au dehors, le long des parois. Et au fond de la cuve, entre deux clairs d'osier, jette un lit de pommes de intact. Depuis 2 jours, à cause de la noce, le pressoir était demeuré inactif. Bathilde et son mari échangèrent un coup d'œil significatif, et bientôt tous les deux, ayant escaladé l'échelle, disparaissaient dans les profondeurs de la cuve odorante. Vrai nuptial, un vrai lit nuptial pour une Normande. Là, du moins, personne ne viendrait les surprendre. Bien malin, pensera-t-il, qui nous dénicherait là-dedans. Un instant, au milieu de leur commune ivresse, ils éprouvèrent comme une vision fantastique et terrible. Il leur sembla que la vis du pressoir, en rechignant, s'était mise à tourner, tandis que le plateau, pesant 1000 kilos, capable de réduire en pâte un bœuf entier placé dessous, paraissait s'abaisser lentement vers eux. En même temps, on eût dit qu'une forme étrange, une tête d'homme grimaçante et cruelle, la tête de ce méchant violonneux, la terreur du pays, sortait de l'ombre, penché sur le rebord de la cuve. Mirage, illusion, cauchemar, sans doute. Ils étaient comme ivres. La vis ne bougeait pas. Le plateau restait suspendu au cran de fer qui le retenait en haut, l'air en haut, et Jean Basset était occupé à racler son violon au milieu de la noce sans gaieté. Leurs yeux se refermèrent et ils s'abandonnèrent tout entiers. On ne les trouva pas, en effet, comme l'avait pensé Bathilde. Ni ce soir-là, ni jamais, on ne les revit. En vain les avait-on cherchés par tout le pays. Un vrai tour de sorcellerie. On en parla longtemps dans la contrée. Mais personne ne pouvait donner le mot de cette mystérieuse disparition. Seul, Jean Basset avait un sourire plus étrange que d'ordinaire quand on venait à jaser devant lui de Bathilde et de son mari les disparus. Alors, il empoignait son violon, donnait 2 ou 3 coups nerveusement et disait, en remuant ses maxillaires, comme s'il eût éprouvé encore les convulsions de son enfance. C'est pourtant cet air-là que je jouais quand ils se sont envolés, les amoureux. Ah, c'était vraiment une bien belle noce, comme on s'amusait. Vous rappelez-vous, compère, comme nous avons eu aussi chaud, le chercher partout, et quand on se fut bien époumonné à crier aux 4 coins de la ferme, « Bathilde, comme on s'est rafraîchi d'un coup de cidre au pressoir. Oh, il avait un goût, singulier goût ce jour-là, le cidre au père Pierret, fameux tout de même. On n'en fera plus jamais comme celui-là, allez, c'est moi qui vous le dis. » Il ponctuait alors ces étranges et incompréhensibles paroles d'un coup d'archet bizarre, dandinant d'un air satisfait ses reins difformes, contournant sa mâchoire détraquée et faisant frissonner sous son buste trop fort ses jambes maigres et torses.